Dimanche 5 novembre 1978, sixième leçon de catéchisme pour adultes par M. l'abbé Montarien en la chapelle polonaise rue Saint-Honoré à Paris.
Le début du premier chapitre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Deux petites remarques avant. Les cinq premiers livres de la Bible, ce qu'on appelle le Pentateuque, sont une œuvre composite. Les spécialistes y reconnaissent cinq sources. Il y a quelque temps, on appelait ces sources des documents. Depuis, on a pris l'habitude de préférer le mot tradition, parce que document, c'est quelque chose d'écrit. Une tradition, cela peut être oral ou écrit. Il y a eu un jour un auteur définitif, un de ces instruments humains dont je vous parlais le jour où je vous ai parlé de l'écriture. Il y a eu donc un auteur, un inconnu, qui a réuni un certain nombre de traditions, qui en a fait une mosaïque. Et les spécialistes peuvent reconnaître telle ou telle tradition au milieu de cette mosaïque. Cinq traditions. Il y a la tradition yahviste, parce que dans ces textes, Dieu est appelé Yahvé. Il y a la tradition éloïste, parce que dans cette tradition, on appelle Dieu Elohim. Il y a la tradition sacerdotale, parce que manifestement, cette tradition est née dans les milieux du temple de Jérusalem. Et il y a la tradition deutéronomique, qui fait la quatrième et dernière. Autrement dit, ces cinq traditions ne sont que quatre. J'ai une fois de plus montré mes compétences en arithmétique. Il y a donc quatre traditions. Je ne crois pas en avoir oublié une. Le récit de la création et de la chute compose deux de ces traditions. La tradition yahviste et la tradition sacerdotale. Vous allez les reconnaître parce que je vais vous faire remarquer les choses au fur et à mesure qu'elles se présenteront. C'était la première remarque que je voulais faire. Une deuxième remarque, qui est importante, si vous voulez comprendre le texte. Vous vous rappelez, c'est le jour où je vous ai parlé de la Sainte Écriture également, que je vous ai dit cela. Vous vous rappelez que les auteurs de l'Écriture ont leur mentalité et s'adressent à des gens qui ont la même mentalité. Autrement dit, les seconds sont faits pour comprendre les premiers. Il faut donc savoir ce qu'ils croyaient, comment ils voyaient le monde, par exemple, pour ce récit, pour tout comprendre. Pour eux, la Terre n'était pas ronde. C'était une galette, une grande galette, n'est-ce pas ? Cette galette était surmontée d'une cloche, une demi-sphère, qui la couvrait complètement. Cette galette reposait sur des piliers, des fondements. Sur quoi reposaient ces fondements? Je crois qu'ils ne se posaient pas à cette question pour en trouver la réponse, pour trouver cette dernière réponse. Donc la galette, c'est la terre. Les fondements, vous savez, il en est question même, il en est question dans la Sainte Écriture, un peu partout, les fondements de la terre. Il en est question même dans l'Évangile. Je crois que c'est notre Seigneur qui dit dans son discours eschatologique, les fondements de la terre seront ébranlés. Jésus était juif, c'était un homme. Il avait la mentalité des juifs et la façon de voir des juifs. Et il s'exprimait comme eux. Après ces deux remarques, vous comprendrez mieux. Je prends le texte, je ne lirai pas tout au long, j'ai choisi. J'ai fait un choix avant dans mon livre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement. Au commencement de quoi? Eh bien, au commencement de tout ce qui existe et que nous connaissons. Tout ce que nous voyons. Que se passait-il avant? La Bible que j'ai consultée, parce que j'ai essayé de consulter une Bible avant de vous parler, et je n'ai pas dépassé la première remarque, parce qu'elle m'a satisfait. Ma Bible disait, les Hébreux n'étaient pas capables de se représenter quoi que ce soit qui pût exister avant le monde. Alors l'auteur dit au commencement parce que en réalité avant il ne voyait vraiment pas ce qu'il pouvait y avoir, Dieu tout seul comme cela, puis le néant, c'est-à-dire Dieu tout seul, non, ça le dépasse, ça les dépassait. Je me suis dit, mais quand sait-on de plus long actuellement? Est-ce que vous êtes capable, vous, de vous représenter le monde avant le monde, c'est-à-dire le néant? Le néant. Le petit néant sur lequel Dieu s'est penché pour former mon être. Nous ne pouvons pas nous représenter cela. Alors, au commencement de ce qui existe et de ce que nous connaissons, au commencement de ce qui est créé, Dieu créa. Nous apprenons une chose qui est importante quand même. Nous apprenons que le monde a commencé. La raison ne pourrait pas nous en dire aussi long. Saint Thomas d'Aquin fait remarquer, je ne sais où, que la raison nous dit que le monde a été créé, mais qu'elle ne peut pas nous dire qu'il est commencé. On pourrait fort bien concevoir un monde qui n'aurait jamais eu de commencement et qui n'aurait jamais de fin. Un temps indéfini, suspendu à l'éternité de Dieu. Une providence perpétuelle. Donc, la raison me laisse perplexe. Je peux croire que le monde a commencé, je peux croire qu'il n'a pas commencé. Or, la révélation me dit qu'il a commencé. C'est tout de même un renseignement important. La révélation me dit aussi ailleurs, c'est dans l'Évangile, qu'il finira, ce monde. Dieu créa le ciel et la terre. Créa, c'est-à-dire, fit sortir de rien. Deuxième renseignement qui vous paraît banal, parce que vous savez depuis que vous allez au catéchisme, c'est d'ailleurs très très longtemps, depuis très longtemps, que Dieu a créé toute chose. Mais c'est tout de même un renseignement pour ceux qui ne sont pas au courant. Et les Hébreux, pour qui ces mots étaient écrits, n'étaient pas au courant. Pour eux, ça fut une révélation. Dieu créa le ciel et la terre. Il est possible que derrière le mot ciel, il y ait ce monde invisible auquel vous dites que vous croyez quand vous chantez le credo. Visibilium omnium et invisibilium. Le ciel. Ce qui ne tombe pas sous le sens. Ces êtres supérieurs. Les armées célestes. Comme on dit parfois dans l'écriture, souvent même. La terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Nous avons dans ce premier texte une sorte de première révélation de la Sainte Trinité. Oh, c'est timide, hein ? Dans un instant, nous verrons Dieu dit. Voilà le Verbe de Dieu, n'est-ce pas ? En ce moment, vous avez l'Esprit de Dieu qui plane sur les eaux, l'Esprit créateur. Veni Creator Spiritus. Viens Esprit créateur. Comparez mentalement ce texte avec le texte de Saint Jean, le prélude de Saint Jean, le prologue. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était Dieu. Et le Verbe était en Dieu. Par le Verbe, Dieu a tout créé. Donc une première révélation de la Trinité, là. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Le Verbe hébreu, que je ne connais pas, pas plus que l'hébreu d'ailleurs, fait penser à un vol d'oiseau. Vous vous rappelez aussi la scène du Jourdain, le baptême de Jésus. On nous dit que l'Esprit Saint se manifesta comme une colombe au-dessus de l'eau. Vous avez donc une terre informe, en grand désordre, et nous allons apprendre tout de suite que l'œuvre créatrice est une œuvre ordonnatrice. Je ne sais pas si c'est français. Dieu met de l'ordre. Ce que Dieu fait, eh bien, il le fait et il le met dans l'ordre. Il y a de l'ordre dans le monde. Le monde n'est pas quelconque. La terre était informe et vide. Et je m'arrête là. Je vais retrouver ce que je vous disais au tout début. Vous allez découvrir qu'il y a de l'eau partout. Dans ce premier récit de la création qui appartient à la tradition sacerdotale. Préoccupation liturgique, vous allez voir cela. On reconnaît le prêtre là et ses manies. Il y a de l'eau partout. Que le compilateur définitif, on aura fini avec ce texte. Il en prendra un autre et il nous racontera une seconde fois la création de l'homme. Il empruntera cette fois la tradition qui dit sur certains points tout le contraire de ce que nous enseigne la tradition sacerdotale. Autrement dit, pour le compilateur définitif, certains points n'ont pas d'importance. Il n'était pas plus bête que vous et moi et se rendait bien compte, par exemple, que dans le premier récit, il y a de l'eau partout et que dans le second récit, il n'y en a nulle part. Dans le premier cas, le monde est tout humide. Dans le second cas, il est tout sec. Autrement dit, tous ces détails qui sont contradictoires sont sans importance. Il a ramassé ces deux traditions, les a juxtaposées pour l'amour de ce qu'elles avaient d'intéressant et de non contradictoire. Vous me suivez là, hein? Alors vous avez de l'eau partout. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous remarquerez que Dieu crée la lumière avant de créer le soleil. L'auteur n'a aucune préoccupation scientifique. Mais pensez à ces paroles de notre Seigneur. « Je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite ne marche pas dans les ténèbres. » La lumière, c'est la plus belle des créatures parce que c'est celle qui nous permet de voir les autres. Il est donc normal, dans une certaine façon de voir les choses, de présenter Dieu comme la créant tout d'abord, la lumière. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Ce petit refrain intervient 6 ou 7 fois, je ne sais plus, dans ce premier texte, dans ce premier récit de la création. Et c'est un renseignement important. Nous apprenons que Dieu n'a rien créé que de bon. Tout ce que crée Dieu est bon. Et s'il y a du mal dans le monde, ce ne peut être son fait. C'est tout de même important aussi. Des renseignements, voyez-vous, d'ordre religieux. Essayez de vous mettre à la place de l'auteur, à la place de ses premiers lecteurs ou de ses premiers auditeurs. Je pense qu'on devait réciter ces textes dans les tout débuts. Voici ce qu'ils en comprenaient, des choses qui pour nous vont de soi, mais pas toujours. Hein? Nous savons déjà que Dieu a créé le monde, que le monde a commencé, que Dieu est en trois personnes. Nous le savons. Mais les premiers lecteurs de ce livre n'en voyaient pas si long. Il vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres, c'est-à-dire qu'il crée le jour et la nuit. Il met de l'ordre toujours, voyez-vous. Il donna à la lumière le nom de jour et aux ténèbres le nom de nuit, et du soir et du matin se fit le premier jour. Voici la création qui nous est dans ce premier récit présentée en 6 jours, avec pour Dieu un 7e jour de repos. Il est bien entendu que cela ne doit pas être pris au pied de la lettre. Il s'agit, je vous le rappelle, de la tradition sacerdotale. Or, la préoccupation des prêtres du Temple, des prêtres de Jérusalem, était celle-ci. Il faut absolument que nos gens observent le sabbat. Et c'est pourquoi il présente la création comme s'étageant sur 6 jours, avec le repos divin, le 7e. Voyez ce que fait Dieu, faites-en autant. Cela vaut pour nous. Le 7e jour est le jour consacré à Dieu. Nous nous reposons le 7e jour, nous prions un peu plus, nous prenons de la distraction mais honnête, une distraction honnête, c'est un jour consacré à Dieu. Et ce que je vais vous dire, c'est une idée un peu personnelle. Il y a derrière ce texte un enseignement que j'y vois et qui s'y trouve, je pense, n'est-ce pas? Le dimanche, c'est ce qui doit nous faire penser à l'éternité. Il y a l'éternité de Dieu, un éternel repos. Vous avez des textes dans l'Écriture. « Jamais ils n'entreront dans mon repos. » C'est un psaume qui dit cela. Dieu parle de son peuple rebelle. « Jamais ils n'entreront dans mon repos. » si vous voulez, jamais ils n'entreront dans mon sabbat, dans mon dimanche, dans mon éternité. Qu'ils restent donc dans leur temps. 6, c'est le chiffre de l'imperfection. 7, c'est le chiffre de la perfection. Je pense aussi à cette parole de Sainte Thérèse de Lisieux. Sainte Thérèse aimait le dimanche quand elle était enfant. Ce n'était pas sombre dimanche, comme disait une chanson, ou bien je hais le dimanche, comme chante l'autre. Elle aimait le dimanche, et elle voyait arriver le soir du dimanche avec une sorte de terreur, et elle rêvait au dimanche sans couchant de la vie éternelle. Alors nous dirons que les 6 jours de la création, c'est le temps, et puis le 7e jour, c'est le repos divin, c'est l'éternité, le lieu du rafraîchissement, de la lumière, de la paix, le repos éternel, requiem aeternam donais domine. Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur eux. J'en vois des choses dans ce texte. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Beaucoup d'eau, vous savez. Beaucoup d'eau sur la galette. Vous avez les piliers qui reposent sur on ne sait quoi, la galette, et puis de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et la fameuse demi-sphère dont je vous parlais tout à l'heure n'existe pas encore. Alors voilà que Dieu la crée. Il met de l'ordre, c'est cela que ça veut dire. Hein. Il crée cette hémisphère, cette demi-sphère. Et alors, je vous en dis un peu plus pour que vous compreniez, par exemple, le récit du déluge, si un jour vous avez envie de lire ce récit. Dans ce firmament, les Hébreux pensaient qu'il y avait de tout petits trous partout, et chacun de ces petits trous était fermé par un clapet. Et de temps en temps, Dieu tirait sur une ficelle, et tous les petits clapets s'ouvraient à la fois. Et alors, l'eau qui se trouve au-dessus de la cloche se mettait à tomber par tous les petits trous, ça s'appelle la pluie. Le récit du déluge commence par cette phrase, alors les cataractes du ciel s'ouvrirent. Les cataractes, ce sont les petits clapets en question. Il y a de l'eau partout pour le moment. Dieu qui met de l'ordre, crée le firmament, quelque chose de solide si vous voulez, et il sépare les eaux qui sont au-dessus du firmament, qui sont une sorte de réserve pour la pluie, des eaux qui sont au-dessous du firmament, qui tiennent encore pour le moment beaucoup de place. Il y a de l'eau partout. Une manière de concevoir le monde très, très humide, très aquatique. Et alors, je ne continue pas ce texte, je reprendrai un peu plus loin, mais Dieu qui continue de mettre de l'ordre va sur la galette séparer les eaux d'avec la terre, formant ainsi les continents et les océans. Alors, c'est tout de même important, vous savez, si vous voulez représenter Dieu, eh bien, dites-vous que c'est quelqu'un qui met de l'ordre. Et si vous voulez lui ressembler, mettez un peu d'ordre dans vos vies. Puisque vous êtes fait à son image, nous ne le savons pas encore en principe. Cela intervient plus loin dans le texte. Puisque nous sommes faits à son image, puisque cette image a été brouillée, eh bien, essayons de remettre les choses en place, en nous-mêmes. Remettons de l'ordre dans nos âmes et autour de nous. J'ai un confesseur qui a eu tout peine de me dire un jour que je devrais changer de drap plus souvent parce que la manière dont on s'y prend chez soi, c'est une image de l'âme. J'ai compris tout de suite que mon âme était toute sale à ses yeux. S'il y a du désordre chez vous, c'est que votre âme est dans un grand désordre. Dieu met de l'ordre. Ressemblez à Dieu. J'en saute. Et j'arrive à ce passage. Dieu dit aussi que des corps de lumière soient faits dans le firmament du ciel, afin qu'ils séparent le jour et la nuit, et qu'ils servent de signes pour marquer les temps et les saisons, les jours et les années. Voilà la préoccupation des prêtres de Jérusalem encore. Non seulement il faut se reposer le sabbat, mais il faut observer les fêtes, les solennités, qui nous sont indiquées par le soleil, la lune et les étoiles. Voilà l'intérêt de ces astres. Ils n'en ont pas d'autre que celui-là. Texte sacerdotal. Alors n'en rions pas. Parce que tout de même, cela veut dire quelque chose et cela nous concerne aussi. La liturgie de l'Église a donné sa perfection à l'ancienne liturgie. Vivez-la. Vivez-la le plus possible. Je sais bien que dans ce monde paganisé et laïcisé, il est très difficile de vivre la liturgie. C'était plus facile autrefois. Mais chacun peut faire un effort. Vous avez des livres, vous avez des missels, vous pouvez vous imposer une petite lecture quotidienne ou hebdomadaire, par exemple le dimanche. Je ne sais pas, on va trouver quelque chose. Mais la liturgie, c'est important. Parce que cette liturgie, c'est un apprentissage du ciel. Au ciel, vous allez me dire, ce n'est pas drôle, au ciel, ce sera perpétuellement la grand-messe. Et ce sera drôle quand même. Ce sera mieux fait qu'ici. Parce qu'en effet, et encore une fois, ici, c'est un apprentissage. Les 5 jours se sont écoulés, les 5 premiers jours, et nous arrivons au 6e. Au début du 6e, Dieu crée les mammifères, en gros, n'est-ce pas? Et voilà. Il dit ensuite, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image, comprenez-le bien, je l'ai dit tout à l'heure aux plus jeunes, nous sommes à l'image de Dieu dans nos âmes. Dieu vient de créer les petits et les grands mammifères et il crée l'homme. Il crée l'homme. Mais il le crée à son image. Autrement dit, il lui donne quelque chose de particulier. Nous verrons tout cela tout à l'heure et plus clairement dans le second récit. Faisons l'homme à notre image et notre ressemblance et qu'il commande aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, aux bêtes, etc. Autrement dit, tout ce monde appartient à l'homme. Je ne sais pas combien Dieu a pris de notre temps pour créer le monde et ce qui s'y trouve, mais ces siècles, ces centaines de siècles, je ne sais combien, qu'il a pris de notre temps pour le faire, eh bien, il les a pris pour nous, pour moi. Le monde nous appartient. Nous sommes les rois de la création. Non pas pour que nous en abusions, mais pour que nous en usions. Tout est pour nous, c'est ce qui est dit là. Qu'il domine sur toute chose, sur toute créature. Dieu créa donc l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il les créa mâle et femelle. Je suis au regret de vous dire que la femme est l'égale de l'homme. C'est pénible d'avoir à avouer de telles choses. Mais c'est écrit là. Je crois d'ailleurs que le texte est très difficile à traduire. Parce que il doit dire plus exactement, il le créa, mâle et femelle. Il créa l'homme, mâle et femelle. Donc, ils sont complémentaires peut-être, mais il faut l'avouer, ils sont égaux, tous les deux. Et nous en arrivons au second récit. Tout à coup, après avoir utilisé la première tradition, le compilateur passe à un autre texte. Et on recommence, mais autrement. Telle a été l'origine du ciel et de la terre, et c'est ainsi qu'ils furent créés au jour que le Seigneur fit l'un et l'autre. Alors voilà, ça commence ici. Il créa toutes les plantes des champs avant qu'elles fussent sorties de la terre et toutes les herbes de la campagne avant qu'elles eussent poussé. Car le Seigneur Dieu n'avait point encore fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour la labourer. C'est tout sec. Pas une goutte d'eau. Tout à l'heure, il y en avait trop, il fallait mettre de l'ordre. Et voilà, dans ce second récit qui est juxtaposé au premier, il n'y a plus d'eau du tout. Nouveau récit de la création, mais présenté autrement. Vous comprenez que ces traditions, plus cet auteur, ont utilisé des traditions voisines, babyloniennes ou autres, si vous voulez, n'est-ce pas? Ils les ont utilisées, s'en sont servis pour nous donner un enseignement important, un enseignement inspiré. Ils s'en sont servis comme d'outils, comme de matériaux, si vous voulez. Mais leur but était autre. Leur but était tout autre, plus haut, je ne sais pas, je n'ai pas de mots, c'est plus élevé, n'est-ce pas? Le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Ça, on ne nous avait pas dit ça dans le premier récit. Alors, vous représentez la scène. Dieu, c'est un anthropomorphisme qu'on appelle cela. Hein? Dieu est représenté sous forme d'un homme. Il façonne un homme avec ses mains qu'il n'a pas, d'ailleurs. Il le façonne, cet homme du limon de la terre, et la traduction est jolie, là. C'est la tradition, une traduction d'après la Vulgate, je ne l'avais jamais lue, elle est belle. Le Seigneur, etc., faut que je m'y retrouve. Il forma l'homme du limon de la terre, il répandit sur son visage un souffle de vie, et l'homme devint vivant et animé. Nous apprenons là que ce que j'ai dit aux enfants tout à l'heure, que nous sommes d'une part terrestres, très terrestres, au point que nous retournerons à la terre et que nous ne nous distinguerons plus d'elle un jour, et d'autre part céleste. Je vais vous dire ce que l'Église y lit dans ce texte. Elle y lit beaucoup de choses. Elle y lit ce que tout le monde y lit, que l'homme est un animal, si vous voulez, mais et que cet animal, eh bien, tire son origine de ses parents. Mais elle y voit aussi que chaque homme reçoit son âme directement de Dieu. J'ai reçu mon corps de mes parents. Quant à mon âme, c'est autre chose. Dieu, dès le moment où j'ai commencé d'exister, s'est intéressé à moi au point de me donner une âme, à moi tout seul. Voilà le sens du texte, voilà l'enseignement du texte. Or, le Seigneur Dieu avait planté dès le commencement un jardin délicieux dans lequel il mit l'homme qu'il avait formé. Ne cherchez nulle part sur un atlas ce jardin délicieux. Ce jardin délicieux, il a existé dans ce sens que nos premiers parents ont bien vécu quelque part. Mais il désigne tout simplement le bonheur terrestre. J'apprends là qu'Adam, puisqu'il ne s'agit que de lui pour le moment, Ève, que nous avons vu apparaître tout à l'heure, est retournée à son néant d'une certaine manière, puisque voilà le second récit de la création, elle n'est pas là. Elle est repartie. Il lui a dit non, pas ce soir. Elle est partie. Alors, le Seigneur avait aussi produit, je me trompe là, un jardin délicieux. C'est le bonheur terrestre. C'est ça que ça veut dire. Alors, vous le placerez où se trouvait Adam, mais comme vous ne savez pas où se trouvait Adam, vous ne le placerez pas. On ne peut pas savoir où c'est. Le Seigneur Dieu avait aussi produit de la terre toutes sortes d'arbres beaux à la vue et dont le fruit était agréable au goût. Et l'arbre de vie au milieu du paradis, avec l'arbre de la science du bien et du mal. Voici deux arbres symboliques. L'arbre de vie qui permettait à Adam de ne pas mourir. Remarquez bien que cela nous est présenté ici comme un privilège et non pas comme quelque chose de naturel. En principe, l'homme doit mourir. Mais il y avait dans ce jardin un arbre dont les fruits étaient des fruits d'immortalité. Autrement dit, cet homme mortel, par privilège, ne devait pas mourir. C'est cela que ça veut dire. C'est l'histoire de l'arbre, c'est ça. Ce qu'on appelle les dons préternaturels, c'est-à-dire qui ne tiennent pas à la nature de l'homme, mais que Dieu, dont Dieu avait gratifié le premier homme. Et la première femme, je n'en parle pas pour le moment, puisqu'elle n'est pas là. Il faudrait que j'aille vite si je ne veux pas dépasser la demi-heure. Le Seigneur Dieu prit donc l'homme et le mit dans le jardin de délices afin qu'il le cultivât et qu'il le gardât. Autrement dit, l'homme travaillait, même avant la chute. Il le faisait avec plaisir, mais il travaillait. Il lui fit aussi ce commandement et lui dit « Mangez de tous les fruits des arbres du paradis, mais ne mangez point du fruit de l'arbre de la science du bien et du mal. Au même temps que vous en mangerez, vous mourrez très certainement. » Une épreuve, c'est tout. Hein. Y avait-il un arbre ? Je ne le pense pas, vous pouvez le penser. J'apprends simplement que Dieu a mis Adam à l'épreuve. Le Seigneur Dieu dit aussi, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide semblable à lui. » Encore une fois, on insiste. La femme est l'égale de l'homme. Le Seigneur Dieu ayant donc formé de la terre tous les animaux terrestres et tous les oiseaux du ciel, il les amena devant Adam afin qu'il vît comment il les appellerait. Dans la mentalité de ces vieux sémites, donner un nom à quelque chose ou à quelqu'un, c'est en prendre possession. On nous dit, encore une fois, et d'une autre façon, que toute la création appartient à Adam, puisqu'il est invité à donner un nom à toute chose. C'est à lui. Et c'est à ce moment-là qu'il s'aperçoit qu'il est seul. Il voit bien les papillons venir deux par deux. C'est vrai, les papillons ont toujours deux par deux. Il voit bien les mammouths, tout ça. Tout arrive par couple, et lui, il est tout seul. Alors il se plaint. Il se plaint. Et je termine par ce texte que vous connaissez et qui comporte un si bel enseignement. Le Seigneur Dieu envoya donc à Adam un profond sommeil. Et lorsqu'il était endormi, il tira une de ses côtes et mit de la chair à sa place. Et le Seigneur Dieu, de la côte qu'il avait tirée d'Adam, forma la femme et l'amena à Adam. C'est pourquoi, voilà l'enseignement, il est clair, on lui donne l'explication aussitôt après l'affaire. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront tous deux dans une seule chair. Cela veut dire simplement que le mariage est indissoluble. Un homme et une femme, quand ils sont mariés, c'est pour toujours. Or, Adam et sa femme étaient alors tous deux nus, et ils n'en rougissaient point. Autrement dit, ils n'avaient pas l'esprit mal tourné. Ils ne faisaient pas « Oh, regarde-moi ça un petit peu ». C'est l'équilibre originel. L'équilibre originel. Je termine en vous disant simplement que, je dis ça parce que vous seriez tenté peut-être d'aller vous mêler aux nudistes qui fréquentent nos plages. Hein ? Il ne faut pas. Ne faut pas. Parce que il y a eu un événement depuis qui s'appelle le péché originel. Or, ils ne m'ont pas fait de confidence, ces nudistes. Mais je me doute bien que s'ils font cela, ce n'est pas parce qu'ils sont innocents comme Adam et Ève avant la chute, mais plutôt parce qu'ils ne sont plus innocents. Je suis sûr même de ce que j'avance. Alors n'allez pas jouer aux adamites, ça existe, ça, c'est une secte. C'était une secte. Habillez-vous chaudement, surtout l'hiver.